Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bonsoir à tous et bienvenue dans la Conspiration des planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus. Toutes les semaines, le mercredi à 19h et le jeudi en rediffusion à 13h30, on fait le tour des scènes bruxelloises pour en ressortir l'actualité marquante et pour la mettre en face d'un discours critique. Ça, c'est ce qu'on insiste bien dans cette émission pour vous donner peut-être envie d'aller voir l'un ou l'autre spectacle. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, c'est d'être curieux et d'aller piocher dans les scènes bruxelloises. À mes côtés en studio aujourd'hui, Christian. Bonjour Christian.
Bonjour.
Et on retrouvera tout à l'heure Catherine par téléphone. Alors, les semaines sont très chargées sur les scènes. Entre festivals et créations, on ne sait plus où donner de la tête. On va essayer de faire un petit peu le tri et de voir un petit peu les musts qui nous sont réservés dans les différents théâtres bruxellois. Et je vous propose tout de suite de prendre la direction du Théâtre National. Théâtre National qui nous propose le spectacle Discours à la Nation, qui revoit revenir sur scène du moins un texte d'Ascanio Celestini qu'on a déjà vu chez nous avec Fabrica, La Pecoraner, qui ont été des textes que lui-même avait interprétés. Ici, il a fait un joli cadeau aussi à David Murgia, un texte qui a fait l'ouverture du récent Festival de Liège et qui vient à Bruxelles pour une belle série jusqu'au 4 mai du côté du Théâtre National. Alors, pour situer un petit peu le décor, le texte d'Ascanio Celestini apparaît assez éclaté, c'est-à-dire que c'est un texte de Sénète où il interroge évidemment la société qui nous entoure, les rapports de pouvoir, la démocratie, et il nous la rend souvent assez grotesque, risible, de par le burlesque des situations et de par les discours qui nous sont fournis ainsi sur scène par l'excellent David Murgia, qui est ici un orateur qui, à la fois dans la peau du citoyen, à la fois dans la peau du politicien, de l'économique également, du patron d'entreprise, et il sur la musicalité des mots, comme ça il surgit avec des idées qui peuvent apparaître incongrues et qui pourtant reflètent assez bien notre société. C'est ce qu'on peut on peut introduire ce spectacle comme ça, hein, Christian.
Oui, ce qui est d'abord là, par rapport à ceux qui connaissent Celestini, oui. Il va y avoir une grosse différence parce que c'est un conteur qui, normalement, ne parle qu'en italien, assis, sans effet, sans jouer, débitant son texte à grande vitesse. Et ici, en confiant à son fils, pratiquement, le rôle d'interpréter son propre texte, il lui laisse la liberté d'être un acteur, c'est-à-dire d'interpréter ce texte, de le varier, de se lever, de jouer avec le décor, etc., etc. Donc, on a une toute autre manière de raconter la même histoire. Et le découpage, bon, c'est Celestini qui est le metteur en scène, oui. Donc qui ne lui laisse pas faire n'importe quoi à David, qui de toute façon ne fait pas n'importe quoi. Et moi, je trouve que la qualité de ce spectacle, la jouissance que j'en ai tirée personnellement, c'est que il y a une complicité entre père et fils, et que le propos, qui est un peu bateau, on critique la société, on critique le capitalisme, et ici il y a une logique de Celestini merveilleusement comprise par David, qui est de dire et de prendre le public à témoin du ridicule de notre type de capitalisme. Mais pas un discours abstrait, un discours très concret, en disant ben, les capitalistes ont triomphé, ils ont repris pour eux la lutte des classes, par exemple. Tout le monde est plié en deux, évidemment, parce que c'est renverser le problème par l'humour. Et c'est ça qui est très fort, me semble-t-il, c'est que parfaite entente entre le metteur en scène et l'acteur, en plus un accompagnement musical très discret mais très efficace, et intelligence et sensibilité aussi, c'est pas qu'une analyse abstraite du propos. Dernier petit exemple, il reprend un exemple célèbre de Swift qui proposait pour résoudre le problème irlandais que les protestants mangent les enfants des catholiques. Et ben ici, il propose que d'offrir les prolétaires de trop, les gens qui arrivent de trop dans nos pays, de les donner à manger. Bon, ça paraît énorme, mais c'est tellement bien introduit que c'est parfaitement bien digéré.
Si on est dans la fable politique. Un autre exemple aussi, quand il fait une espèce de hiérarchisation de la société avec les gens qui ont réussi à se mettre un parapluie au-dessus de la tête pour se protéger. Et puis, il y a encore les gens en dessous qui n'ont pas de parapluie. Et voilà, il fait une hiérarchie de la société comme ça, tout à fait presque anecdotique. Mais finalement, quand on y réfléchit, on se dit bah, « Oui, c'est ça. C'est un peu comme ça que ça se passe. »
Mais c'est à la fois symbolique et concret. Et il y a une mise en scène, donc il n'est pas assis sur sa chaise. Il y a toute une mise en scène autour qui rend l'ensemble plus digeste, plus visuel et plus sensuel, je dirais.
Alors, David Murgiac, on avait pu découvrir notamment avec son Raoul collectif dans Le Signal du promeneur. Ici, explose vraiment de talent. On l'a déjà dit.
Il était déjà fort dans le collectif. Voilà. Hein, mais ici, il éclate. Ouais.
On sait qu'il était assez stressé parce qu'évidemment, c'est un texte. Il faut rappeler, comme tu disais tout à l'heure, qu'on ressent, même si le texte est en français, une certaine italianité dans le débit qui nous est fourni. Parce que ça parle beaucoup. Ben, hein,
David Murgiac, père et fils, hein, il lui transmet le témoin.
Et rappeler aussi que dans la mise en scène, donc on joue avec des caisses, des petites lampes également.
Trois fois rien, mais c'est efficace.
Et il est accompagné d'un musicien également qui vient souligner parfois quelques passages tout à fait parfaitement. Ça n'enlève rien, ça souligne vraiment les propos de David Murgiac. Donc voilà, c'est un de nos coups de cœur de la semaine, ces discours à la nation d'Ascanio Celestini avec David Murgiac, et c'est à voir jusqu'au 4 mai, du côté du Théâtre National, www.theatrenational.be. On prend la direction du Théâtre Varia maintenant. Christian, tu es allé voir pour nous Sous la ceinture.
Sous la ceinture d'un certain Richard Dresser, que personne ne connaît ici de ce côté de l'Atlantique, qui est un Américain, qui fait surtout des scénarios de films d'ailleurs, et qui n'avait été vu en Europe qu'une fois à Avignon, emmené par la Schaubühne de Berlin. Bon, trêve de détails, ça parle de quoi? Eh bien, ça parle encore une fois de notre société. C'est du social, mais dynamité, un peu comme les Monty Python, dynamité par l'humour. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, un décor épouvantable, on dirait un refuge pour SDF pendant l'hiver, donc c'est glauque. Et à droite de la scène, on voit arriver un petit bonhomme, clown, qui essaye de parler à un grand monsieur très méchant. Et il vient essayer de se mettre dans une structure qui est une structure de contrôle d'une société dont on ne connaîtra jamais le fin mot, le fin but, ce qui permet de ne pas mettre des images vidéo pour dire voilà, c'est là, ça concerne tel conflit, tel autre. Le conflit est abstrait, mais il est d'autant plus fort parce que vient faire le petit clown qui s'appelle Dobbit face au grand clown qui s'appelle Anraham? Eh bien, il va essayer, en gros, du moins, c'est Amram qui le croit, de lui prendre sa place. Et en arrière-fond, vous avez un patron parfaitement cynique qui joue sur cette concurrence supposée et qu'il entretient comme un feu pour maintenir son autorité. Et il les appelle d'abord ensemble et puis successivement divisés pour régner. Ça, c'est la situation. De l'usine dans laquelle qu'ils sont censés contrôler est au milieu du désert. Et donc, on a ce bureau du patron, minable, ce dortoir pour deux, minable. On a un tout petit éclairage sur ce désert où, de temps en temps, les deux personnages viennent rêver. Mais au moment où ils rêvent, ils dialoguent et l'un essaye de démoraliser l'autre, notamment en disant qu'il a couché avec sa femme. Bref, il y a un côté vaudeville à distance, comme ça, qui renforce les choses. Alors, où est la force de ceci? Mais d'abord, c'est un texte. On parle beaucoup de texte de scène. Ici, c'est un texte mitraillette, un texte réglé sur le rythme, sur la vitesse, sur la précision. Il faut bien rendre hommage à Delphine Salquin, qui est une ancienne actrice du Varia, mais qui a immigré en France, et notamment du côté de Lavaudan, qui est un des grands metteurs en scène. Et elle parvient à imposer un rythme, et tout est dans ce rythme, dans la musique faite par sa sœur, qui permet à ces deux clowns principaux de se répondre, l'un plus sarcastique, l'autre plus gentil, avec une surprise à la fin, parce que le patron, à force de jouer l'un contre l'autre, finira par en choisir un, en croyant lui-même être nommé ailleurs, ce qui ne sera pas. Bref, c'est une métaphore, mais très dynamique, très forte, très précise et très drôle, et tout en étant tragique, de n'importe quelle société contemporaine, que ce soit une petite entreprise ou une grande, finalement.
Une grande entreprise ou même la société de manière générale.
Oui, on peut l'interpréter comme on veut. Et c'est ça qui est bien, parce qu'il n'y a pas, par la force d'une vidéo, on peut en penser ce qu'on veut. Le spectateur est libre. Et au début, ce sont des acteurs français de très grande qualité. Et au début, on se dit, oula, on n'est plus habitué à entendre ça. Pendant 10 minutes, je me suis dit, tiens, oui, il faut se remettre dans la diction à la française impeccable, dans cette espèce de fignolage, alors qu'ici, on laisse un petit peu tomber les mots. Ce perfectionnisme, ça marche comme un vaudeville, qui lui-même est une mécanique. Et bien ici, c'est un vaudeville social, mais avec cette dynamique du vaudeville et cette qualité des acteurs et de la mise en scène.
Sous la ceinture, donc, on l'aura compris, une jolie surprise à voir du côté du Théâtre Varia. On rappelle...
Petit Varia, donc, à 20h.
Au Petit Varia, voilà, merci pour la précision. De Richard Dresser, mise en scène de Delphine Salca. On va citer quand même la distribution. Olivier Cruveillé, François Macheret et Jean-Philippe Salerio pour ce trio...
Inspiré
de Loup pour l'Homme, voilà. C'est à voir jusqu'au 27 avril du côté du Théâtre Varia, 3fw.varia.be. On va faire une petite pause musicale en lien avec un des spectacles que nous évoquerons dans la deuxième partie. Le temps de passer un coup de fil à Catherine et on se retrouve juste après ceci. Total Eclipse, un morceau que nous n'avons pas choisi de manière anodine puisqu'il est au centre du spectacle de Clément Thérion, Weltanschauung, à voir au Théâtre de la Vie en ce moment. On en parlera dans quelques instants, mais tout d'abord, place au Tanneur et on accueille Catherine par téléphone. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Alors, Christian et vous avez vu le spectacle Lettre à Cassandre, qui se passe du côté des Tanneurs, un texte de Pedro Eiras, si je ne m'abuse, et une mise en scène de David Strasberg. Je te laisse commencer, Catherine.
Oui, une lettre à Cassandre. Alors, on peut dire que c'est pas vraiment une pièce pour se donner un coup de fouet joyeux pour la suite de la soirée. C'est une pièce plutôt sobre, même très 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 sobre, qui se divise en deux parties, deux seules en scène en fait, et qui commence avec celui de Karim Barras, qui écrit une lettre à sa fiancée. Et au fil de cette lettre, on comprend que en fait il est soldat dans un pays qu'on imagine être l'Irak, peut-être puisque cette armée est là pour essayer de rétablir un peu de démocratie, mais vit dans l'insécurité constante. Et ce Karim Barras, peu à peu, va un petit peu perdre les pédales, essayer de se raccrocher à ce qu'il écrit à sa fiancée, et en même temps n'arrive pas vraiment à lui avouer une chose qu'on ne comprendra qu'à la fin, et qu'on ne comprendra que dans la deuxième partie, qui en fait est jouée par Anne-Pascale Clérambourg, qui joue évidemment la fiancée, et qui détricote un petit peu cette lettre qu'elle a reçue de ce fiancé lointain, et en détricotant cette lettre, amène à le faire avouer cette chose inavouable, que je ne vous dirai pas, évidemment, pour pas gâcher l'effet de surprise, même si on imagine bien s'il s'agit de soldats américains dans un pays chaud, ce qui peut advenir. Alors voilà, c'est très, très, très épuré. David Strasberg a vraiment fait le minimum en termes de mise en scène, puisqu'il n'y a pas aucun décor, absolument aucun décor. Juste un peu de lumière pour éclairer ces deux comédiens, ces deux seuls en scène. Et on joue là, évidemment, à 100% sur le jeu d'acteur pour creuser toujours un peu plus les sentiments... désespéré, hein, plus ou moins, de ces deux personnes, de ces deux amoureux qui ne se voient pas depuis quelque temps et qui vont qui vont se mettre à nu devant nous, qui vont mettre à nu ses sentiments. Donc voilà, ça tourne beaucoup en rond, évidemment, puisque ça tourne autour d'une seule lettre.
Oui. Catherine, le texte s'intitule Une lettre à Cassandre. Est-ce qu'il y a une référence mythologique, évidemment, avec cette prophétesse de malheur?
Oui, bien sûr, puisque la fiancée verra à ce don bizarre de voir ce qui va se passer dans l'avenir. Et elle pourra, évidemment, de ce fait-là, lire entre les lignes de la lettre de son fiancé et comprendre vraiment ce qui se passe. Donc voilà la référence à Cassandre. Voilà, pour moi, c'est peut-être un peu trop sobre, peut-être un peu trop obsessionnel aussi, fort répétitif, mais voilà, c'est une belle mise en abîme d'un amour difficile. Voilà, je ne sais pas ce que Christian en a pensé.
Ben je le relance.
Bon, mais Catherine, on ne l'a pas vu le même soir et on a déjà souvent constaté dans notre jury du prix du théâtre que selon le soir où on la voyait, ça marchait plus ou moins bien. Eh bien, de l'avis même de David, à qui j'ai demandé hier, ben écoute, ça s'est beaucoup mieux passé hier soir ou quand je l'ai vu. Donc, tous les éléments, toutes les fragilités dont tu parles et qui sont... des risques calculés et voulus par David et par les acteurs ont eu hier leur récompense que la salle dans son ensemble a bien aimé. Cela n'enlève rien au fait que comme c'est un spectacle extrêmement fragile qui est basé dans la lettre déjà sur des allers-retours entre le passé et le présent. Alors qu'au cinéma, on a le système du flashback pour passer de l'un à l'autre. Ici, c'est uniquement en parole. Et pour peu qu'on perde un peu le fil de ce qui s'est dit, on ne distingue pas tout de suite les trois plans, c'est-à-dire la situation en Irak, son désespoir, ses scènes avec ses copains soldats et les gros rires que ça suscite, le besoin qu'il a d'un médecin tellement il est en déprime, et finalement cette lettre à Cassandre où il regrette qu'elle ne soit pas là, et on ne sait pas très bien, oui on voit que c'est parce qu'il s'aime et qu'elle n'est pas là, mais en même temps il est content qu'elle ne soit pas là. Donc c'est un petit peu le mystère. Et dans la deuxième partie, Cassandre joue un petit peu, elle qui savait tout dans les parties d'enfance qu'ils évoquent, et puis dans leur amour qu'ils évoquent, qui savait que c'était un menteur, et lui se défend d'être un menteur, alors que elle, comme héritière de Cassandre, elle s'appelle Vera, j'imagine que ça veut dire vrai ou quelque chose comme ça, elle est désespérée de déjà avoir tout compris chez son amant, ami, et que au fond, la difficulté de l'amour, quand on est trop lucide, elle vous tombe sur la tête, et c'est un peu le destin de l'amour, quand il y a quelqu'un qui est plus lucide que l'autre, ça finit pas très bien.
Alors,
moi, je crois que c'est une pièce qui devrait faire jouir les psychanalystes, parce qu'on est très fort dans le « je creuse le sentiment véritable derrière les mots ».
Voilà.
Et de ce côté-là, c'est très très intéressant, et il faut aussi dire que ce sont deux comédiens excellents.
Alors oui, là,
c'est ce que j'allais dire, parce que ça porte beaucoup, évidemment, sur ces comédiens. Est-ce que c'est un texte de théâtre, d'abord, au départ? Parce que vous le savez, ça, si c'est un texte qui a été...
C'est un monsieur mystérieux, Pedro Heras, qui sera d'ailleurs là, je crois que c'est jeudi, ce jeudi, qui viendra un peu expliquer. Non, c'est un parfait inconnu, comme ton Richard Dresser là, dans le précédent. Je ne le connaissais pas plus que ça. C'est un texte... Vous savez, pour le moment, on fait texte avec tout. Mais ici, c'est un texte pensé pour le théâtre. Je crois. Il y a vraiment deux voix qui se répondent. Mais seulement, ce n'est pas du théâtre réaliste. Ça, c'est moins compliqué.
Alors, pour relancer, Catherine, Karim Barras, Anne-Pascale Clérambourg, le duo, ils t'ont impressionné, ils t'ont plu. Karim Barras, il nous avait déjà plu dans Hamlet, là, dernièrement. Est-ce qu'il renouvelle le bon point?
Ah oui, tous les deux sont absolument formidables, d'autant qu'ils n'ont absolument rien pour les soutenir là-dedans. Ils sont seuls sur un plateau nu et ils sont captivants. C'est un théâtre de l'intime et donc tout repose sur eux. Et Anne-Pascale Clérambourg, surtout, moi, m'a fort impressionnée dans cette douleur désespérée, vraiment formidable.
Alors voilà pour cette lettre à Cassandre, beaucoup plus intimiste, beaucoup plus renfermée, peut-être un petit peu sur elle-même, ce spectacle, ce texte, ce duo à distance, on va dire, de cette Vera et de son fiancé parti au loin. Rosé, je vois qu'il s'appelle. Oui, Christian ?
Oui, pour ce qui est de la mise en scène simple, il faut dire que David a une immense admiration pour Claude Régis, qui est le spécialiste de ce minimalisme. C'est-à-dire qu'à une époque où on ne voit que de la vidéo pour soutenir le texte, ici, c'est le texte, rien que le texte, avec, en essayant de tirer de l'expressivité des acteurs. Et je trouve que Karim Barras, par rapport à tout ce que j'ai connu de lui, se simplifie, se calme et devient de plus en plus expressif. Et donc, c'est quand même un beau duo.
Une lettre à Cassandre, à voir jusqu'au 4 mai du côté du Théâtre Les Tanneurs, www.letanneurs.be. Alors on part maintenant aux confins du monde, le monde de la création de Clément Thirion, qui propose la forme finie, du moins on espère, parce que ce spectacle est assez cocasse, on vous en parlera dans quelques instants. Weltanschauung, ça s'appelle déjà, ça veut dire perception, conception du monde, qui nous parle un petit peu de la création, Catherine, c'est bien ça. Il remet en question la création, parce que lui-même, quand on lui a dit, ben voilà, essaie de faire de créer quelque chose, il a été un peu saisi par l'immensité de la charge qui était devant lui. Qu'est-ce que la création ? Et il nous entraîne dans tout un concept autour de la création du monde, la création artistique évidemment. Il mélange un petit peu tout ça pour nous offrir un spectacle assez cocasse.
Oui, dit comme ça, ça a l'air assez pompeux, mais en fait, il faut dire que
non.
C'est très drôle. Il y a une espèce de fausse nonchalance. On a l'impression qu'il bricole quelque chose comme ça devant nous, mais en fait, c'est très, très travaillé. C'est en fait très subtil. Et oui, on aborde la création, mais de manière vraiment avec beaucoup de dérision, puisqu'ils déboulent tous les deux avec des moon boots en fourrure aux pieds. Pour lui, un pantalon moulant en lycra, elle un petit short. Et ça va vraiment partir dans tous les sens, avec du Klaus Nomi qu'on vient d'écouter, avec du travail vidéo, avec de la danse. C'est assez incontable, moi, je trouve.
Oui, tout à fait. Pour remettre en contexte, on avait déjà pu voir une première ébauche de ce spectacle lors du VRAC Festival il y a un an et demi à peu près. C'était du côté du Théâtre de l'Aile qui accueillait cette résidence de création. Et finalement, moi qui avais vu cette première étape, je me dis que finalement, il est peut-être resté un petit peu accroché à cette première étape en nous montrant un spectacle qui a l'air toujours en création. C'est ça aussi, hein, pour raccrocher un petit peu cette création. Comment ça se passe ? Eh bien, Clément Thirion, sur scène, avec l'aide de Gwen Berrou, eh bien, nous raconte un petit peu comment ils ont voulu construire leur projet. Et ils disent qu'ils nous présentent une espèce de forme finie, mais elle ne l'est pas aux yeux. Voilà, c'est assez bizarre. On est toujours un petit peu entre les deux. Alors, c'est très cocasse. Ils sont très, très amusants dans chacun leur personnage. Lui, en espèce de maître de création, encore un petit peu naïf, qui essaie de convaincre avec parfois des termes très compliqués. Il y a un passage sur le silex biface. Rien que déjà partir sur ce thème-là, on se dit, mais où va-t-il ? Où va-t-il ? Et puis, il y a aussi Gwen Berrou dans une naïveté aussi tout à fait particulière, fragile et assez touchante. Finalement, je trouve. Qu'est-ce que tu en penses, Catherine ?
Oui, on peut peut-être parler de la fin, quand même. Mais parce que ça donne le ton de la pièce où, tout à coup, la pièce s'interrompt parce qu'il y a un coup de fil et Gwen Berrou va répondre et puis elle apprend qu'elle a un casting là tout de suite pour le cinéma et alors elle va vite se changer et puis elle part et Clément se retrouve là tout seul à devoir finir son spectacle. Il n'arrivera pas vraiment à le finir, alors il annonce évidemment qu'il y avait des séquences qui allaient nous bouleverser. Il résume un peu tout ça et ça donne une mise en abîme de cette création qui finalement restera toujours à l'étape de création et qui ne sera jamais complètement aboutie.
Une mise en abîme qui est également explicitée dans la scénographie avec un jeu de miroir dans la profondeur. Je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça comme ça à la radio parce que c'est complètement dingue. Mais en tout cas, on vous incite à aller voir cet objet scénique entre danse, performance et théâtre également parce qu'il y a beaucoup de jeux en fait dans ce spectacle. Eh bien, on vous incite à aller le voir notamment du côté du Théâtre de la Vie. Alors c'est à voir encore toute cette semaine jusqu'à samedi, ce samedi 27. Juliette. C'est à 20h et ce sera en reprise au mois de juin dans le D-Festival au Marny. On vous dit déjà ça. www.theatredelavie.be. Encore trois petites minutes pour parler du Festival Trouble qui s'est ouvert hier mardi du côté des Halles de Schaerbeek. Dernière édition de ce Festival de la Performance. Christian, tu commences ?
Oui, dernière édition parce qu'il n'y a plus de crédits, c'était des crédits européens. Bon, alors, disons que pour une fois, cette performance qui passe quand même pour quelque chose d'assez léger, pas dans la longueur, hein, mais dans le propos, ici, ils l'ont centré sur une question humoristique, la crise. Quelle crise ? Donc, ils ont introduit une dimension sociale avec une série de gags, comme par exemple, vous pouvez porter vos vêtements qui seront rapiécés et qui seront exposés à la fin du festival. On se déplace aussi beaucoup. On va par exemple à Matongé, où, avec l'aide du musée de Tervuren, les passants vont dialoguer avec les commerçants congolais du coin pour parler du passé colonial. Donc, il y a une dimension sociale et même... international, je dirais, là, le problème de la colonisation, problème politique, donc. Et puis, il y a d'autres performances qui sont basées sur le social, avec notamment des femmes qui racontent leur histoire de ménagère, mais tout ça de manière comique, déjantée, comme on dit beaucoup ici. Et je n'ai rien vu, mais le spectacle m'a donné le goût d'aller voir deux, trois choses comme ça. Et alors, le deuxième thème, c'est évidemment, comme toujours, dans ce festival, trouble, le trouble sur le sexe, le trouble sur l'identité sexuelle. Et il y a là beaucoup de spectacles qui tournent autour avec la théoricienne de la philosophie queer qui sera là vendredi.
Catherine, hein, quelque chose à ajouter ? Tu as repéré peut-être quelque chose d'intérêt à ce festival Trouble ?
Oh ben non, je dirais que tout est dit. C'est vrai que c'est très fort sur la crise et sur la ville, donc on va se balader dans la ville et rien que ça, c'est agréable.
Chaque spectacle pour avoir fait ce festival l'année dernière est une expérience en soi, une expérience de spectateur, et on vous invite aussi à aller vivre ce genre d'expérience. Parfois, ça dure 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et on peut voir beaucoup de choses.
Oui, alors en plus, comme c'est dispersé dans toute la ville, ça commence à 14h, ça finit à 24h. Donc si vous voulez faire un marathon en vous changeant de lieu, ben, vous pouvez faire une visite guidée de Bruxelles grâce à ça. Le soir, ça se rassemble à partir de 18h au Hall, mais sinon, c'est un peu partout.
Le festival Trouble, toute cette semaine au Hall de Schaerbeek, www.hall.be. Merci Catherine.
Merci.
À la semaine prochaine, et merci Christian également pour sa participation. Merci. Toutes les informations sur notre site www.radiocampus.be et le podcast de cette émission sur demandezleprogramme.be également à partir de vendredi midi. Excellente semaine sur les scènes, soyez curieux et à bientôt. La constelación.